cours de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette dernière semaine de l'année qui est aussi celle de la rediffusion des meilleurs moments partagés avec vous, chers amis auditeurs à l'esprit libre et curieux. Nous vous proposons de nous remettre à l'écoute d'autres langages que le nôtre, ceux des autres animaux. Comment comprendre le langage des oiseaux, le chant des baleines ou les miaulements des chats, mais aussi la danse des abeilles ou les expressions des gorilles, car chaque espèce a des manières spécifiques de communiquer, de partager ses émotions, ses peurs et ses désirs, d'exprimer ce qu'ils ressentent, de faire sens avec tout leur sens. Comment décrypter non seulement les sons et les cris des animaux, mais aussi leurs signes et leurs gestes? Il va nous falloir ouvrir non seulement nos oreilles, mais aussi notre esprit et nos cinq sens pour partager le dictionnaire animalier de nos invités. La zoosémiologue Astrid Guillaume, qui donnera sa langue au chat, et l'éthologiste Sébastien de Règnecourt, qui nous traduira les vocalises de l'oiseau diamant mandarin. Tout un programme diffusé le 24 juin dernier et que nous vous proposons de réécouter autour de la question « Que disent et que se disent les animaux ?» Ah, ça commence évidemment par un bonjour à partager entre espèces dans la voix du célèbre éthologue Franz de Waal.
Dire bonjour, c'est très simple. Les chiens font ça constamment. Les chats sont pas si bien là-dedans, mais les chiens font ça. Ils sont très contents de te voir.
Ils font la fête, quoi.
Revoir, oui. Mais dire au revoir, ça c'est plus compliqué parce que pour ça, il faut anticiper la séparation. Et ça, c'est plus complexe. Il y a plein des gens, bien sûr, qui disent au revoir à leur chien ou à leur chat, mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils vont le faire. Mais chez les primates, chez les chimpanzés, par exemple, on a eu une situation, c'était intéressant, on avait une femelle qu'il fallait sortir du groupe régulièrement pour un certain traitement, et chaque fois qu'on le séparait du groupe, elle faisait tout un tour de toutes les chimpanzés sur l'île où elle habitait pour dire au revoir, donner un baiser, et seulement après tout ça, revenait dans le bâtiment.
Donc elle avait la conscience, le sentiment, elle savait bien qu'elle partait,
oui,
et qu'elle voulait,
oui,
dire au revoir.
Oui, oui. Alors, il y a des espèces qui peuvent faire ça, mais pour ça, faire ça, il faut anticiper le futur.
N'anticipons pas tout de suite et commençons donc par nous dire bonjour. Bonjour Astrid Guillaume.
Bonjour Caroline.
Bonjour Sébastien de Règnecourt.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être en direct avec nous par téléphone amélioré pour partager les mots des animaux. C'est le titre d'un cycle de conférences passionnant à la Cité des Sciences, visible sur la toile, dans lequel vous nous faites partager, alors Astrid Guillaume, vos recherches sur les langages, langues et dialectes des animaux. Vous êtes Astrid, chercheuse en sciences du langage, spécialiste en sémiotique des cultures humaines et non humaines à la Sorbonne Université. Plus précisément, sémiotraductologue, c'est-à-dire que vous travaillez sur le sens et le transfert de sens, sur toutes les manières de faire sens, et pas seulement verbal, mais aussi gestuel. Vous appliquez cette recherche en sciences du langage aux animaux. C'est ce qu'on appelle la zoosémiotique que vous développez et que vous avez développé en créant notamment la toute première société française de zoosémiotique que vous dirigez. Vous venez également, Astrid Guillaume, de publier en anglais chez East Edition Faire Sens, Faire Science. Il y a beaucoup de manières, on va se rendre compte, de faire sens, et les animaux non humains en ont de nombreuses. Ils usent, on pourrait dire, de tout leur sens pour faire sens, et pas seulement des mots et des sons, Astrid Guillaume.
Tout à fait. Alors que la linguistique humaine va plutôt parler de mots, de verbal, d'écriture, pour les animaux, on va s'orienter vers toutes les formes de sens. Donc on est dans le champ disciplinaire de la sémantique et de la sémiotique, qui est appliquée aux animaux, donc la zoosémantique ou la zoosémiotique, et qui va s'intéresser non seulement à l'expression de différents types de sens, mais également à leurs associations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que du son, il y a éventuellement aussi de l'olfactif, du gestuel, et l'association de toutes ces formes de sens, donc faire sens, effectivement, va nous informer sur ce que les animaux ont à nous dire, éventuellement dans des contextes particuliers.
Oui, parce que ce dictionnaire animalier, si je veux dire, on le comprend bien, c'est très très complexe finalement, ça mélange beaucoup de sens et beaucoup de signes, c'est en plus spécifique à chaque espèce, et bien plus que ça, hein. Il y a des dialectes entre espèces, des accents, des gestes spécifiques à certains groupes, et même on peut aller plus loin à certains individus.
Tout à fait, puisque la dialectologie humaine fait partie également de la linguistique, des sciences du langage, mais elle est entrée véritablement aussi dans l'éthologie, donc mon collègue Sébastien Deronioco nous en parlera, est également entrée aussi chez les cétacés, par exemple les spécialistes des cétacés parlent de dialecte, c'est-à-dire que les animaux ont différentes façons de s'exprimer en fonction de leur région, en fonction de leur culture, des cultures qu'ils communiquent. Donc la culture n'est plus le propre de l'humain, est véritablement associé aussi à des pratiques, à des attitudes, à des transmissions de savoir entre individus. Et c'est là que l'on parle non seulement d'individus, mais également de personnalité, de caractère pour chaque animal et pour chaque espèce, bien sûr, mais au sein de chaque espèce, pour chaque individu.
Autour de la question que disent les animaux, c'est loin d'être simple et on va évidemment s'intéresser aux plus beaux parleurs, gazouilleurs et chanteurs, ce sont les oiseaux évidemment. Sifflement, chant et gazouillis, mais que disent les oiseaux? C'était le thème de votre conférence, hein, Sébastien de Regnecourt. Vous êtes éthologiste, professeur à l'Université Paris-Nanterre, directeur du laboratoire Éthologie, Cognition et Développement et vous travaillez plus précisément sur un oiseau, le diamant mandarin. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce diamant mandarin?
Alors, le diamant mandarin, c'est un petit oiseau qui est originaire d'Australie, mais que l'on considère un peu comme la souris volante de la recherche sur le chant des oiseaux, car c'est un petit oiseau qui est très facile à élever en captivité et se reproduit très facilement. Et chez ce diamant mandarin, alors, je m'intéresse plus précisément à la communication vocale chez cet oiseau. Eh bien, comme chez tous les oiseaux, on distingue dans les vocalisations les cris qui sont produits dans différents contextes alimentaires, des cris de quémande qui sont par exemple produits par les jeunes, des cris d'alarme, et puis les cris donc qui sont produits par les jeunes, par les individus des deux sexes. Et puis on distingue des cris, le chant qui est l'apanage des mâles. Seuls les mâles chantent.
Cette espèce-là ou chez tous les oiseaux
Alors, je ne sais pas, ce n'est pas le cas de toutes les espèces d'oiseaux.
D'oiseaux, hein. Oui, déjà, on peut pas le dire, les oiseaux, c'est déjà énorme, quoi. Mais...
Oui, il faut rappeler qu'il existe près de 10 400 espèces d'oiseaux, dont près de la moitié sont représentées par ce qu'on appelle les oscines ou les oiseaux chanteurs. Et parmi ces oscines, on retrouve donc le diamant mandarin. Alors, chez certaines espèces d'oscines, mâles et femelles chantent, parfois même certaines espèces chantent en duo. Oui. Mais chez le diamant mandarin, mâles chantent et ils apprennent à chanter pendant une période sensible plus courte qui est comprise entre 25 et 90 jours après l'éclosion.
Ils apprennent à chanter, hein. C'est bien ça que vous avez montré, sur lequel vous travaillez. Vous nous avez d'ailleurs fait parvenir quelques sons d'apprentissage. Vous allez évidemment nous les traduire, hein, puisqu'on traduit, puisqu'on est dans des questions de sens et de langue, même si elles sont animales. Pour le diamant mandarin, je propose d'écouter d'abord ce que vous nous avez envoyé, une séquence de babillage, c'est ça, d'un jeune mâle. Allez, on l'écoute, Hugo. Qu'est-ce que c'est, ça, Sébastien de Regnecourt?
Là, ce sont les premiers chants qui sont produits par un jeune mâle de diamant mandarin. Il a environ 25 jours. Il est encore à proximité de ses parents, de sa mère et de son père. Et petit à petit, ce chant va se transformer, un peu comme le babillage chez l'humain se transforme ensuite en mots et en phrases. Eh bien, chez le diamant mandarin, ce babillage, ce son vont ensuite donner naissance à ce qu'on appelle des phrases composées de syllabes. On utilise les mêmes termes, hein, pour désigner les vocalisations des oiseaux que les termes
parce qu'on qu'elles contiennent utilise. Du sens, parce qu'il y a du sens, parce que c'est des phrases, parce que...
Alors, elles ne contiennent pas forcément du sens dans la mesure où ces syllabes prises indépendamment... pas forcément n'ont pas la même signification par exemple que les mots qu'on a dans les langues humaines. Je pense que là c'est une distinction qu'on retrouve entre le langage humain et les autres modes de communication animale. Chez l'humain, le langage est composé de phrases et de mots et on peut parler de tout et de n'importe quoi, voire de choses qui n'existent pas, alors que chez les oiseaux, on a comme chez de l'humain, donc un chant qui se développe à partir d'un babillage, qui va être un signal qui va ensuite avoir une signification, mais cette signification, elle dépend aussi du contexte. Par exemple, le chant chez le diamant mandarin, c'est une signature individuelle. Chaque mâle a son chant différent, donc c'est un peu comme une signature vocale. Ce chant, le mâle va le produire, par exemple, en présence d'une femelle, au cours d'une parade. Il va aussi le produire en présence d'un congénère, mais ce signal n'indique juste à celui qui l'écoute
qu'il est là.
Qui est l'oiseau, dans quel voilà. état émotionnel il est éventuellement.
Ah oui,
mais
tout de même.
Mais on n'aura jamais chez l'oiseau la possibilité de transmettre des informations aussi précises, aussi justes, aussi complexes que celles qu'on retrouve chez les humains.
Oui, oui, on n'est pas dans des discussions métaphysiques, on l'a bien compris, mais on est dans un apprentissage parce que vous nous avez fait passer une autre série de sons qu'on va entendre avec l'apprentissage d'un jeune mâle diamant mandarin. On va écouter d'abord son professeur, hein, son tuteur. On y reviendra peut-être avec vous, Astrid, parce que tous ces mots sont aussi en anglais. Son tuteur, d'abord, Hugo, on envoie le... Ça, c'était le tuteur de l'oiseau mandarin. Maintenant, on écoute l'élève, hein, le pupille. Et vous entendez la différence.
Je n'entends pas tellement la différence à l'oreille, mais après, on utilise des outils, des analyses spectrographiques qui nous permettent ensuite de rechercher les ressemblances et les différences, de calculer des pourcentages de similarité entre le chant du tuteur et le chant de son élève. Et en l'occurrence, ici, on a une très bonne imitation. Et c'est une particularité du diamant mandarin, parce qu'encore une fois, chaque espèce apprend de manière différente. Chez le diamant mandarin, il est important d'avoir ce contact physique, vocal, cette interaction avec le tuteur. Certaines espèces d'oiseaux vont peut-être apprendre le chant de leur voisin simplement en l'écoutant. Mais pour le diamant mandarin, pour obtenir une imitation parfaite, il faut que le jeune oiseau soit élevé avec un tuteur adulte pendant cette période sensible, comprise entre 25 et 90 jours. Si on diffuse par haut-parleur uniquement le chant, l'oiseau n'apprendra pas.
Pas d'enseignement virtuel chez les oiseaux. Et puis on a bien vu, vous l'avez dit aussi, que chacun peut avoir sa personnalité. Astrid, Guillaume, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus, à la fois sur la personnalité de chaque individu, sur l'apprentissage donc du chant chez ces oiseaux, en l'occurrence l'oiseau mandarin, et aussi sur les mots que nous utilisons pour en parler, parce que finalement on dit bubbling pour du babillage, tutor, pupille, enfin en quelle langue et quels mots peut-on, nous humains, utiliser pour une telle variété de sons, de manières de communiquer ?
Ben c'est toute la question, justement, puisque bon, pour les oiseaux, la langue française a beaucoup, beaucoup de mots pour qualifier chaque manière de s'exprimer dans des contextes précis pour chaque espèce d'oiseau. Donc là, au contraire, on a peut-être une quinzaine de pages de termes en français pour qualifier, par exemple, la perruche qui va jaboter, jacasser, siffler, ou le pigeon qui va caracouler, qui va jaboter aussi, ou roucouler. Ou la poule qui fait certains sons en fonction de certains contextes avec ses poussins. En revanche, bon, parce que les oiseaux sont très bavards, ça, il y a eu un développement de tout ce qui est sonore chez les oiseaux qui n'est peut-être pas aussi développé chez les autres animaux. En revanche, chez les autres animaux, on n'a pas beaucoup de termes, en tout cas beaucoup moins que pour les oiseaux. Mais malgré tout, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de termes pour les oiseaux qu'on n'utilise pas très régulièrement les mots chant, les mots cri. Et que l'on utilise aussi pour les cétacés. De la même façon, on va parler des chants des cétacés, on va parler des chants des oiseaux sans distinction. Alors que le côté artistique, esthétique, n'est pas forcément en cause. Là, c'est une forme d'anthropomorphisme que d'appeler cela un chant, parce que en tant que sémioticienne, je vois aussi les associations d'idées. Et quand on parle de chant, on voit un petit peu la cantatrice sur la scène de l'opéra. Alors que bon, la baleine ou l'oiseau n'est pas forcément dans ce contexte.
Mais en même temps, ils ont, alors on reviendra aussi sur les baleines, mais en tout cas les oiseaux, Sébastien de Raignecourt, il y a aussi un côté esthétique, enfin leur chant, leur musique, si on a autant de mots pour le dire, c'est parce qu'on y est sensible, hein, notre oreille humaine les entend, et puis peut-être aussi que, avant de parler, on a commencé par chanter, nous les humains, je sais pas, je vais trop loin là.
C'était une des hypothèses de Charles Darwin, hein. Il pensait que, d'ailleurs, que la plus belle analogie qu'on avait dans le règne animal au langage humain, c'était le chant justement des oiseaux, des oscilles, des oiseaux chanteurs. Et il a développé aussi cette idée que eh bien, le langage s'est développé en relation, bien sûr, avec les capacités cognitives des humains, mais il a aussi proposé que potentiellement, chez les premiers représentants de la lignée humaine, on avait la même situation que ce qu'on observe chez les oiseaux, c'est-à-dire des individus qui vont vocaliser dans un contexte de para, de défense de territoire, donc peut-être d'attraction du partenaire. Donc c'était une des hypothèses de Darwin, cette hypothèse de ce proto-langage musical en quelque sorte.
Mais il existe
Oui,
toujours,
tout à fait.
d'ailleurs, en Espagne, je crois, une langue sifflée.
Absolument, il y a la langue sifflée des Canaries, hein, le silbo, oui.
Tout à fait.
Inspiré des oiseaux. Et je sais aussi qu'il y a des chercheurs aujourd'hui qui remontent aux origines du langage et qui vont effectivement du côté de la musique, hein, en s'inspirant des oiseaux. On a vu que les oiseaux, vous nous l'avez démontré, par ces sons, Sébastien, ils apprennent les uns des autres. Et puis, ils sont parfois aussi copieurs, hein, très imitateurs. Alors, on connaît le cas de l'oiseau lyre. Je vous invite, chers amis auditeurs et internautes, à aller prêter une oreille là-dessus. Formidable imitateur. Mais vous, Sébastien de Régnecourt, vous nous avez fait passer la serinette d'un canari, alors collé-copié sur une boîte à musique humaine. On écoute d'abord la serinette du canari, Hugo Violas. Effectivement, là, on est très très près d'une mélodie que vous nous avez envoyée également, Sébastien. Allez, on écoute la vraie mélodie, la badine ou petite chasse, enregistrée à partir d'une serinette du 18e siècle, c'est-à-dire une boîte à musique. Sébastien de Régnecourt, votre canari, hein, on va le réentendre peut-être dans quelques instants juste pour le plaisir, mais votre canari, il a écouté ça et puis il l'a copié et puis il le rechante.
Oui, c'est ce qui s'est passé. On a diffusé par haut-parleur cette mélodie à des canaris. Il se trouve que là, ici, on a un oiseau, un mâle, qui a imité cette mélodie de serinette. Alors, cette pratique, hein, elle a débuté au XVIIe siècle, hein, principalement dans les milieux aristocratiques en France. Hein, ça consistait à apprendre justement des mélodies musicales à des oiseaux, des canaris, mais aussi des merles, des perroquets. Et donc, en laboratoire, on a voulu essayer de reproduire ce résultat pour voir jusqu'à quel point justement les oiseaux sont capables d'apprendre des sons qui ne font pas partie de leur répertoire spécifique. Et c'est le cas, par exemple, ici de notre canari.
Et oui, allez, on le réécoute juste pour le plaisir. Le canari avec. On va chanter avec lui, avec le canari, autour de la question que disent les animaux et comment les comprendre. Mais on va d'abord se mettre dans la tête d'un petit félin, pas social du tout, plutôt solitaire et prédateur de canaris d'ailleurs. Ne donnez pas trop vite votre langue au chat, car c'est de lui qu'il s'agit, un cas à part, en zoosémiotique, que l'on va découvrir juste après Thomas Fersen, qui lui aussi a appris la langue des chats dans son dernier album. On écoute Richelieu sur RFI.
Étranges coutumes, je léchais mes Richelieu et mon costume. Je rôdais au cimetière sous les grands arbres. Je passais entre les pierres, entre les marbres. Je sautais dans le jardin de la voisine et je volais du boudin à la cuisine. En me léchant l'oreille, un chat me donna le pouvoir de comprendre le parler des chats. Bien qu'on me caresse sous le menton les poutous de sa maîtresse à son chaton. Oh le joli poisson rouge, le canari, je sautais sur tout ce qui bouge, pauvre souris. J'ai fait tout ce que j'ai voulu dans le quartier, bientôt on ne compta plus mes héritiers. Au lieu de me donner du lait, on commença à prétendre qu'il fallait. Cela me rendait nerveux pour mes valseuses.
ça. Le pouvoir de comprendre le parler des chats. Je sais, c'est mon petit jeu et la bizarre coutume de lécher mes riches lieux et mon costume. De lécher mes riches lieux et mon costume. Mais je n'en restais pas moins un chaud lapin.
Le chaud lapin, Thomas Fersen, dans la tête et dans la langue des chats. Extrait de son dernier album sur RFI autour de la question « Que disent les animaux ?» en compagnie de la chercheuse en sciences du langage, sémiotraductrice et zoosémiologue Astrid Guillaume, en compagnie également de l'éthologiste Sébastien de Regnecourt qui vient de nous faire partager un peu du langage des oiseaux et du chant des canaris. Autour de la question « Que disent les animaux ?», on va maintenant s'intéresser à la langue du chat avec la chercheuse en zoosémiotique Pauline Delahaye, qui, après avoir consacré sa thèse aux émotions chez les animaux, sous votre direction, Astrid Guillaume, s'intéresse et travaille désormais sur le langage des chats, qui nous réserve d'étranges surprises. Notre reporter Jérémy Bazar a fait parler Pauline Delahaye, mais pas n'importe où, au royaume des chats.
On est au Chamallow Café, c'est un des deux seuls bars à chats, à ma connaissance, de Paris. Le principe étant que vous venez ici prendre un café... Et vous avez des chats. Et en fait, vous êtes techniquement chez les chats. C'est toujours intéressant, lorsqu'on décide de parler de chats, d'en avoir à côté et de voir celui qui est planqué et qui bouge pas, celui qui roupille et qui en a rien à faire, celui qui est en train de chercher l'autre, celui qui se balade, celui qui est bavard, celui qui l'est pas. Et de voir même, puisqu'on parle de mouvement, que dans ceux qui sont bavards, dans ceux qui communiquent, il y a aussi tout un très grand panel dans les races et dans les caractères aussi. Le chat, il faut bien se rendre compte qu'à l'origine, c'est pas du tout une espèce sociale comme le chien ou le cheval. Ça vit pas en groupe ou très très peu. Et d'un seul coup, il devient social pour en plus vivre dans une société, dans des familles où il y a des humains et où il y a d'autres chats et où il y a des chiens, et se retrouve du coup dans des sociétés très très complexes alors que ça n'est pas du tout une espèce sociale à l'origine.
Est-ce que le chat a développé quelque chose de particulier pour pouvoir parler, communiquer avec les humains ?
Il faut se rendre compte que les chats qui sont pas au contact des humains ne miaulent pas. Le miaulement, c'est vraiment un canal spécifique, adapté à l'humain. Les chats, entre eux, ils feulent, ils grognent, ils ronronnent, ils couinent pour les plus petits, ils crient pour les chatons quand ils appellent, mais ils ne miaulent pas. Miauler, c'est vraiment un comportement adapté à une espèce vocale qu'est l'humain. Un chat qui miaule, c'est un chat qui parle aux humains.
Et alors, qu'est-ce qu'il dit aux humains, le chat qui miaule, Pauline Delahaye ?
Alors, la plupart du temps, il dit « occupe-toi de moi ». Mais beaucoup plus sincèrement, ça va dépendre des types de miaulements. C'est un peu comme les pleurs des bébés. Au bout d'un moment, si vous ne connaissez pas, vous dites « un miaulement, c'est un miaulement, comme un pleur, c'est un pleur ». Et puis, toutes les personnes qui ont eu des enfants savent qu'au bout d'un moment, ils savent faire la différence entre le pleur de « j'ai faim », le pleur de « j'ai mal quelque part », le pleur de « je suis sale ». Et chez les chats, ça va être pareil. On va distinguer des choses comme ça. Les vétérinaires me disent comme ça qu'il y a un certain nombre de fois où ils voient des propriétaires arriver dans leur cabinet avec un chat dans les bras en disant « j'ai un problème, mon chat miaule ». Oui, bon, c'est plutôt... Il dit « non, mais il miaule pas normalement ». Le propriétaire sait ce qu'est le miaulement d'appel de son chat et sait aussi faire la différence entre un miaulement normal et un miaulement qui vraiment ne l'est pas. Et effectivement, souvent, on trouve un problème chez ce chat-là. Donc, il faut bien comprendre que les miaulements, c'est en réalité très, très nuancé. Mais c'est très difficile à décrire parce que c'est vraiment très adapté à l'humain en face.
Pauline Delahaye, est-ce que vous avez une question pour Astrid Guillaume, l'une des invitées de notre émission ?
Je pense qu'il y a un point intéressant dans les termes qu'on utilise parce qu'on sait que le chat, il miaule, et puis il crache, et puis il feule, et puis il ronronne. À quand autant de diversité de termes pour parler des autres espèces qui aussi font plein de choses dans leur communication très différentes ?
Les miaulements nuancés des chats recueillis par Jérémy Bazar. Avant de vous laisser, Astrid Guillaume et Sébastien de Regnecourt, répondre à sa question, j'ai juste envie de dire que Pauline Delahaye vient finalement de répondre à une des questions de nos auditeurs sur les réseaux sociaux, à Goma en RDC Congo, qui nous demandait « la domestication a-t-elle modifié le langage animal ?» Alors, je ne sais pas si vous aurez d'autres réponses, mais quand on entend Pauline Delahaye dire que le miaulement, c'est très adapté à nous, à une espèce humaine parlante, on se dit que oui, ils ont dû s'adapter, comme nous sommes adaptés aux animaux, peut-être, ils ont dû s'adapter à nous les humains. Est-ce que vous voulez développer aussi là-dessus, Astrid Guillaume ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Pauline Delahaye. Les chats sont plus ou moins bavards, tout dépend des espèces. Il y a des espèces très connues pour être très bavardes chez les chats, comme les chats orientaux ou les chats siamois, et puis des chartreux ou des persans qui le sont beaucoup moins, mais qui s'expriment autrement. Et leurs interactions avec leur maître ou leurs parents, comme on dit en anglais, est différente d'une maison à l'autre, d'un individu à l'autre. Et tout est une question d'éducation avec les animaux dits domestiques, puisque en fonction de comment vous allez interagir avec eux lorsqu'ils sont chatons et comment ils ont interagi avant d'être chez vous avec leur mère, va avoir des incidences sur leur comportement avec les mêmes espèces qu'eux, enfin, c'est-à-dire en intraspécifique ou en interspécifique. Donc en fait, finalement, oui, on peut inventer beaucoup de mots. Il y a des mots pour qualifier les émissions sonores du chat, mais on pourrait en inventer beaucoup d'autres, puisqu'il y a différents types de ronronnements chez le chat. Mmh. Il n'y a pas qu'un ronronnement de bien-être. Par exemple, on parle souvent de ronron-thérapie. La ronron-thérapie, ça calme les humains, oui, par exemple, mais ça calme aussi le chat. Par exemple, quand un chat vient chez le vétérinaire et qu'il ronronne, c'est pas forcément qu'il se sent bien chez le vétérinaire. Au contraire, il se calme. Et parfois, certains chats qui sont souffrants vont ronronner parce que les basses fréquences les calment. Donc il y a effectivement toujours le même mot, qui est le mot ronron dans tous les cas. Même le ronron de peur, c'est le ronron. Le ronron de contentement, c'est le ronron. Et on pourrait développer d'autres mots. Par exemple, la langue allemande peut inventer autant de mots, peut faire des mots composés. La langue française est plus limitée sur ce plan, mais je pense qu'on devrait se laisser aller un peu plus sur les néologismes.
Oui, c'est ça, pour inventer d'autres mots, parce qu'au fond, finalement, tout fait signe. Enfin, il n'y a pas nous, on est effectivement des êtres sociaux et puis vers beau, mais on s'exprime d'ailleurs pas seulement, même nous, hein, animaux humains, on s'exprime pas seulement avec nos mots, il y a tout qui fait sens dans notre corps, dans nos gestes, c'est ça que vous étudiez, c'est ça aussi, hein.
Mais le silence fait sens. Mmh. Et le silence, chez les animaux, est très présent également, puisque s'exprimer pour un animal, surtout un animal sauvage, c'est potentiellement se mettre en danger. Donc ils ont développé aussi un langage silencieux qui est à connaître, qui est à analyser, et même des silences entre les émissions sonores, tout comme pour le langage des humains, où on se tait, et ce silence, ce qui est tu, ce qui n'est pas dit, fait sens.
Et oui, il dit quelque chose, bien sûr.
Soit on tait, soit on cache, soit on dissimule, soit on ne veut pas dire, mais dans tous les cas, le silence est une expression de sens, tout à fait.
Sébastien de Raignecourt, vous qui étudiez plus précisément les oiseaux au niveau de leur cognition, est-ce que les silences aussi, est-ce qu'il y a d'autres, évidemment, d'autres manières de communiquer chez les oiseaux, par exemple, que les sons ?
Oui, il y a bien sûr la communication gestuelle qui accompagne d'ailleurs souvent aussi les sons produits par les individus quand ils sont à proximité. Hein, on pense bien sûr aux parades, au cours de la saison de reproduction, et il y a différentes modalités sensorielles qui sont mobilisées par les oiseaux pour communiquer, et pas uniquement les vocalisations.
En même temps, on se dit, alors est-ce que c'est une idée reçue, que c'est du côté des corbeaux qui a la plus grande, alors là c'est pareil, c'est avec des guillemets, mais intelligence, autre forme d'intelligence, et en tout cas capacité à apprendre, à communiquer, à retenir
Alors les corbeaux ont une enfance... Oh, pardon.
Oui, Astrid, non, allez-y, puis on retrouvera Sébastien. Non,
en fait, Sébastien rebondira. Les corbeaux ont une très longue enfance. Et le fait qu'ils restent très longtemps avec les parents, et là pour le coup, on a souvent chez les oiseaux un couple qui éduque les petits. C'est pas toujours le cas dans la nature. Souvent, ce sont les mères qui éduquent seules les petits. Les petits, vous aurez noté, on dit souvent les petits, alors que dans d'autres langues, on dit les enfants. On ne dit pas les enfants en français pour qualifier les petits des animaux. Et donc le fait qu'il y ait une transmission des parents, et des parents qui souvent habitent en groupe dans la nature, permet de développer une intelligence exceptionnelle.
Sébastien ?
Alors après, il faudrait qualifier l'intelligence. L'intelligence, c'est aussi le fait d'apprendre, de répéter et de bien savoir s'adapter.
Bien sûr, hein, on a fait... Voilà, c'est effectivement complexe. On va y revenir là-dessus. Sébastien, peut-être quelque chose à ajouter sur ces...
Oui, par rapport à l'enfance et au développement, c'est vrai que des études récentes montrent en effet que les corbeaux, on va avoir une modification au niveau du cerveau qui est très importante dans les premières années de leur vie, et que ça peut être lié justement à cette enfance, à cette période d'élevage avec les parents qui est très longue. C'est ce qu'on observe d'ailleurs chez les humains, hein. Un bébé, un nouveau-né né avec 25% du cerveau adulte en termes de volume. L'enfance, c'est une période très importante dans le développement d'un humain, mais aussi de n'importe quelle autre espèce animale. Et pour revenir aussi sur ce point qui a été évoqué précédemment sur la domestication, le chien, le chat en particulier, on a en fait favorisé des caractéristiques juvéniles du loup chez le chien, et de même que chez le chat, en fait, le ronron qu'on retrouve, on le retrouve aussi chez des félins, de jeunes félins, mais on ne le retrouve pas chez des tigres adultes, par exemple.
Ouais, donc on a sélectionné les plus communicants. Oui.
On a sélectionné, c'est une adaptation. Je ne pense pas que le miaulement, ce soit vraiment quelque chose qui soit spécifique à la communication humain-chat. Je pense que le miaulement existe dès l'enfance chez le jeune chat, et que par la suite, on a, en quelque sorte, au cours de la domestication, favorisé ce mode de communication entre l'humain et le chat. Et la domestication, comme vous l'avez dit, ça va un peu dans les deux sens, hein. On a domestiqué le chat et le chien et d'autres espèces animales. Mais en ce qui concerne nos animaux de compagnie, on a aussi, au cours de l'évolution, sans doute, domestiquer l'humain pour favoriser ces canaux de communication et de transmission interspécifiques.
Alors vous avez parlé aussi du...
Ce caractère juvénile chez le chat, d'ailleurs, on le retrouve lorsqu'il pelote, vous savez, lorsqu'il ronronne, et il fait comme un mouvement de patte sur un oreiller ou bien sur les jambes du propriétaire. Mm-hmm. C'est tout simplement un rappel de son enfance quand il pétait le lait à la mamelle de la maman. Donc il y a aussi un caractère juvénile qui parfois réapparaît bien plus tard chez les chats.
Chez les chats, chez tous ces animaux, alors on sait évidemment que quand on pense aux grands singes, quand on pense, on a parlé des corbeaux, des perroquets, des baleines, hein, le chant des baleines qui ont même des dialectes et des accents, qui se reconnaissent entre elles, enfin qui communiquent entre elles avec les mêmes accents. On pense évidemment aux éléphants, mais il n'y a pas que. On a parlé du loup aussi, hein, mais il n'y a pas que. Sous l'eau aussi, les poissons, oui, les poissons, parviennent à s'entendre et à se faire entendre de toutes les manières possibles. La preuve avec cet éclairage d'Éric Parmentier, chercheur à l'Université de Liège. C'est un des rares experts européens de la communication phonique chez les poissons. Il les écoute et les enregistre avec un micro hydrophone. On l'écoute.
Les poissons sont capables de faire des sons dans différents contextes comportementaux, et ils envoient clairement des messages, au même titre que les oiseaux sont aussi capables de s'envoyer des messages. Ça peut être principalement lié à la défense du territoire. Tu es chez moi, dégage. Le message, ça peut être aussi d'essayer d'attirer des femelles pour que, contrairement à la défense du territoire, pour que ces femelles viennent sur le territoire, et donc pour essayer de les conquérir et assurer une reproduction.
Il y a des sons particuliers selon les espèces pour attirer les femelles, puisque c'est ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui.
C'est un peu l'idée qui est défendue dans la littérature scientifique, un peu comme certains spécialistes sont capables de reconnaître des oiseaux au champ en forêt. On devrait aussi être capable de pouvoir identifier les sons des poissons, donc de donner chaque fois un nom à un son en particulier. Et on travaille beaucoup là-dessus pour le moment. On peut faire un parallélisme, hein, à nouveau par rapport à ce qui se passe dans les forêts. On essaye de voir un peu, de comprendre comment en fait les poissons, comme les oiseaux ou comme les mammifères terrestres, font pour éviter, si vous voulez, une cacophonie. Parce que si tout le monde se met à crier en même temps, il est clair que des messages ne vont pas pouvoir passer.
Quel est le son qui vous a le plus surpris dans cette recherche, Éric Parmentier ?
Ah ben je en parlais tantôt, c'est même pas moi qui ai fait la recherche, et pourtant c'est le son que je préfère. Ça a été fait par un de vos compatriotes qui s'appelle Jean-Paul Lagardère. Ce sont les sons des maigres que l'on peut enregistrer du côté de Bordeaux. Ils sont géniaux. Ils sont connus depuis longtemps aussi, hein. Il faut savoir que ce sont des poissons que l'on pêchait à l'oreille, justement. C'est M. Lagardère qui a retrouvé des écrits des années 1600 où les pêcheurs expliquent qu'ils se couchent simplement sur le fond du bateau et ils tapent leur oreille sur le fond du bateau pour pouvoir détecter les sons et savoir donc où ils devaient jeter leur filet.
Et Et voilà le chant, le son du maigre. Qui veut réagir à cet éclairage, Astrid, Sébastien? Astrid?
Oui, moi je veux bien réagir parce que là on voit à quel point le développement de la technologie, des micros subaquatiques, ce qui s'appelle la bioacoustique, nous permet de découvrir des mondes que nous ignorions totalement auparavant. Mmh. Et les poissons sont des êtres sentients, ils ressentent des émotions, ils s'expriment.
Sentients. Alors attendez. Astrid, on va s'arrêter sur ce mot parce qu'on va y revenir, parce qu'il a en plus fait son entrée dans le dictionnaire Larousse en 2020 et qui nous concerne. Le mot sont des êtres sentients. Vous avez dit, vous n'avez pas dit sensible, vous n'avez pas dit intelligent, vous avez dit sentient.
Tout à fait. Alors je fais moi, il y a une distinction entre sensible et sentient. Sentient, c'est un terme qui est beaucoup plus précis que le mot sensible. La sensibilité, en association d'idées, souvent se réduit à est-ce que l'on ressent le chaud et le froid, est-ce qu'on ressent on souffre de l'acidité ou non quand on est animal. En revanche, le mot sentient ou sentience implique différents degrés de conscience, voire de sentiments, ressentir des sentiments, des émotions, mais également avoir une mémoire de ses émotions, voir s'il y a des traumatismes, s'en souvenir et ne pas avoir le même comportement si traumatisme il y a. Donc c'est pas du tout le même degré de contenu sémantique avec le mot sensibilité ou sensible. Et donc les poissons, pour y revenir, sont sans aucun doute des animaux sentients, puisque ils s'expriment, ils sont grégaires, si on fait de la plongée, ils s'habituent à nous, ils viennent nous voir, il est possible de développer des relations tout à fait intéressantes avec des poissons.
Jusqu'où
les mots sont pauvres, puisqu'on n'a que les mots « sont » pour qualifier ce qu'ils expriment. Donc là, il faut encore une fois inventer des mots. Et c'est bien pour cela qu'on crée en fait une commission de terminologie au ministère de la Culture pour faire justement créer des mots, préciser les termes pour tout ce champ de culture animalière qui s'ouvre devant nous.
Vous avez dit champ de culture alimentaire, alors je l'entends de plein de manières possibles. Sébastien de Raignecourt, vous voulez réagir? Les oiseaux sont des êtres sentients aussi, non seulement sensibles, mais en plus quand on dit les oiseaux, ça veut rien dire, j'ai bien compris, par espèce et presque par individu, mais vous employeriez le même mot, ce mot de sentience, sentience?
Oui, bien entendu, on peut utiliser ce terme, et je pense que par rapport au reportage sur les poissons, c'est assez intéressant parce que on est souvent tenté, lorsqu'on entend des oiseaux chanter, de traduire par des mots humains ce qu'ils veulent dire. Ne viens pas là, c'est mon territoire. viens là, jolie demoiselle. Enfin, je veux dire, il y a différentes manières de traduire ce que disent les animaux, mais pour sûr, ce qu'il y a aussi dans les vocalisations des oiseaux, c'est des émotions, c'est des désirs, c'est parfois aussi de la peur, de l'agression, de la colère. Donc, les animaux ont des émotions et je pense que ce terme de sentience est tout à fait approprié pour parler des animaux.
On va y revenir et on va même l'adopter, ce terme de sentience, autour de la question que disent les animaux et que nous racontons-nous justement comme bêtises sur ces bêtes qui ne le sont pas du tout et qui sont sentientes. Allez, on écoute les rois de la Suède sur RFI, les animaux sont des cons.
Les enfants y sont fascinés, il est trop formidable. Mais même un chien d'aveugle sait pas lire quand il y a des travaux. Gros minable, il ira jamais acheter des jouets un samedi avant Noël. Il rangera jamais sa niche, il videra pas le lave-vaisselle. La honte, il a pas lu jusqu'au bout, ni pif ni Snoopy. Il ira jamais promener le chien, puisque c'est lui. Les enfants vous aiment bien, mais les enfants c'est pas malin. Ils savent pas couper leur viande. Ah, les animaux c'est des cons, à part le facteur cheval qui a fait une jolie maison. Les animaux c'est des cons, sauf bien sûr Thierry l'ermite et peut-être Didier Bourdon. Les zèbres font des trucs contre le réchauffement planétaire. Ben non, ils mettent juste de la crème solaire chelou qui marche une fois sur deux. Est-ce que les bébés phoques font quelque chose contre les crises financières? Ben non, ils s'engraissent en fabriquant des manteaux luxueux. Oh, les animaux, vous êtes des gens sur qui on peut pas compter. Je ferai plus de confiance à un sourd qu'un caniche pour me faire coiffer. Les enfants,
enfants vous aiment bien, mais les enfants c'est pas malin. Et on a plein qui savent pas lire.
Et voilà les rois de la Suède sur RFI autour de la question que disent les animaux, qui sont évidemment, évidemment, tout sauf des cons. Nous sommes en compagnie de l'éthologiste Sébastien de Règnecourt et de la zoosémioticienne Astrid Guillaume. Alors pourquoi Astrid Guillaume a-t-on tant de mal, et la même question pour Sébastien, à accepter le fait que, ben non, les animaux sont pas du tout des cons, s'il y a des bêtes c'est peut-être nous. J'ai même envie de reprendre un des titres du livre de Franz de Waal qu'on a entendu au début de cette émission, sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? Pourquoi a-t-on tant de mal à adopter tout ce que contient ce mot, non pas de sensibilité, pas d'intelligence, mais de sentience pour les animaux, Astrid?
Il y a eu beaucoup de freins, je dirais, idéologiques, scientifiques, philosophiques et même religieux à l'idée que les animaux pouvaient être intelligents au même titre que les humains. Au même titre, c'est-à-dire avec d'autres formes d'intelligence,
c'est
bien
ça.
Sûr. Mais,
d'autres formes de langage, d'autres... voilà.
Tout à fait. Il y a eu aussi des problèmes de langage, parce que quand on dit « il est bête » ou « c'est une bête », il y a une différence entre l'adjectif « bête » et le substantif « bête », tout comme il y a une différence de sens entre le substantif « humain » et l'adjectif « humain ». Le substantif « humain » étant l'espèce humaine, et l'adjectif « humain » étant une qualité humaine. Et ben, c'est pareil avec le mot « bête », qui est vraiment l'animal, le bestial, et l'adjectif « bête »,« idiot ». Donc, il y a aussi des associations d'idées et des confusions. Ces confusions ont desservi les animaux, évidemment.
Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un peu... Alors, il y a à la fois une prise de conscience, quand même, des chercheurs comme vous, enfin, pas seulement une prise de conscience, mais des découvertes sur, justement, cette sentience, cette extrême, plus que sensibilité des animaux, cette empathie dont parlait aussi Franz de Waal. Mais en même temps, il y a toujours ce barrage. Alors, c'est quoi les raisons aujourd'hui? Elles seraient plus...
Ça peut être économique, parce que se rendre compte que les animaux ressentent des émotions, des traumatismes, impliquerait de modifier tout le circuit des abattoirs, par exemple, ce qui coûterait un peu d'argent, voire de les supprimer. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a des chercheurs qui sont contre l'idée que on puisse accorder une personnalité aux animaux. Par exemple, les dauphins sont considérés comme des personnes non humaines, les orang-outans également. Donc cette frontière qui est quasi biblique entre humains et animaux pose encore problème, même chez certains grands scientifiques.
Alors précisément autour de cette frontière, je propose une dernière petite question soulevée par une autre éthologiste, Audrey Dussutour, qui a beaucoup travaillé d'abord sur les fourmis, qui s'intéresse maintenant à un autre être vivant, alors ni animal, ni champignon, ni plante, le blob. Mais ce n'est pas sur son blob qu'elle vous interroge, on l'écoute.
On dit souvent que le langage symbolique, il n'existe que chez l'humain et l'abeille. Et je voulais savoir si c'était vrai ou si on avait d'autres preuves chez d'autres animaux du langage symbolique. Parce que ça me surprend qu'on puisse le retrouver que chez l'humain et l'abeille.
Qui veut répondre? Peut-être Sébastien de Règnecourt. Est-ce que les oiseaux peuvent avoir un langage qu'on pourrait qualifier de symbolique?
C'est une question qui est assez complexe et fait intervenir des termes qu'il faut définir. Je pense que lorsqu'elle fait référence aux abeilles, c'est par rapport à cette découverte de Carl von Frisch de la danse des abeilles dans la ruche, qui vont indiquer à leurs congénères où se trouve la source de nourriture, indiquer la distance, l'angle par rapport au soleil. Donc c'est de transmettre une information sur quelque chose qui n'est pas présent dans l'environnement proche de l'individu. Et ça c'est bien sûr c'est très complexe de répondre à cette question par rapport aux oiseaux, parce qu'en général les oiseaux, quand ils communiquent, c'est sur des aspects qui sont présents. Ils vont utiliser des cris différents pour définir différents types de prédateurs, par exemple.
Ah oui, quand même, différents types de prédateurs. Il y a quand même des sacrées nuances.
Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment une question qui est très complexe et qui appelle justement à définir le langage, définir les caractéristiques du langage et par rapport à, en plus à cette notion de symbole qui là aussi est assez complexe.
Voilà. Absolument. Et puis comment on fait, comment on demande aux animaux, Astrid Guillaume?
Alors justement, bon, on parlait de dictionnaire. Pour les gibbons, on a quand même défini un dictionnaire des gibbons, un petit lexique. Il exprime, le gibbon, les dangers en expliquant, voilà, un danger qui vient du haut, si c'est un aigle, ou du bas, si c'est un serpent, et avec des émissions sonores particulières. Mais pour ce qui est de la symbolique, c'est très intéressant en sémiotique des cultures humaines, parce que les symboles font le tour de la planète et n'ont pas forcément la même signification. C'est Il y a une grande polysémie chez les symboles. Dans les symboles, en particulier dans les mythologies, entre autres, symboles des couleurs, des formes, des animaux. Mais on trouve quand même chez certains poissons, je ne sais pas si vous avez vu ce poisson, qui fait une magnifique rosace sur le sable pour séduire sans doute cette semaine. Et c'est une rosace qui est géométriquement parfaite. Alors on pourrait étudier les raisons de ces édifices. Les termites font aussi des choses extraordinaires. Mais les abeilles, leurs ruches sur le plan symbolique est très intéressante. Alors là, on peut calquer les symboles humains, ce serait complètement de l'anthropomorphisme, mais c'est intéressant aussi parce que les animaux ont aussi leur histoire symbolique en lien avec l'histoire humaine, mais être à leur place, c'est se transposer dans leur cerveau, ça reste quand même l'un des freins de la science actuelle. C'est très difficile.
Se mettre dans la tête.
Et là, il faut que nous désanthropisons. Attention aux gros mots, nous désanthropisons en quelque sorte les termes pour essayer d'être au plus proche des animaux avec cette frustration que nous n'y arriverons très certainement jamais.
C'est mais ça, mais essayer d'être au plus près et justement d'ouvrir les fenêtres et de ne pas plaquer des choses que l'on pourrait penser sur eux. C'est votre travail à tous les deux. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Sur quoi vous travaillez, Sébastien de Raignecourt, en ce moment, autour de votre diamant mandarin ou d'autres oiseaux?
Alors, chez le diamant mandarin, on est en train de développer un robot diamant mandarin pour apprendre de jeunes oiseaux à chanter.
C'est justement
pour étudier les aspects multimodaux de l'apprentissage. Et là, on s'est rendu compte que lorsque le jeune produit un cri, que le robot répond, eh bien, le jeune sera plus enclin à apprendre d'un robot interactif que d'un robot non interactif.
D'accord.
Alors, ça nous pose bien sûr des questions par rapport justement à ce rapport entre l'animal, la machine, le robot, et ce rapport qu'on a aussi avec les machines, avec les robots chez les humains. On s'y intéresse de plus en plus. Est-ce qu'on va pouvoir remplacer des robots par des humains? Et comment justement l'animal perçoit le robot? Est-ce qu'il le perçoit comme un con spécifique? Ou comme un individu d'une autre espèce. Donc voilà, ça nous ouvre sur d'autres différentes questions par rapport justement à la manière d'interagir avec les animaux.
Sacré champ de recherche, on va en terminer avec vous, Astrid Guillaume, sur quoi vous travaillez. Donc faire sens, faire science, ça c'est le titre de votre ouvrage qui est paru aux éditions londoniennes. Mais sur quoi travaillez-vous en quelques mots, parce qu'on est vraiment à la fin de...
Je travaille actuellement, entre autres avec le ministère de la Culture, sur la traduction interculturelle, c'est-à-dire comment appliquer les théories traductionnelles qui étaient à la base utilisées pour les humains, jusqu'où on peut les appliquer sur les champs animaliers, sur les cultures animalières, puisqu'on introduit la notion de culture au sein du ministère de la Culture, ce qui est une innovation, et voir jusqu'où les théories sont les théories humaines sont élastiques pour travailler en traduction, c'est-à-dire compréhension de l'interculturel animalier et humain.
Génial, vous reviendrez nous faire partager ce dictionnaire animalier. On garde en tout cas ce mot sentient en tête et on va essayer de l'employer plus régulièrement. Merci à tous les deux d'avoir été en direct avec nous par téléphone amélioré. Merci à vous, Astrid Guillaume. Merci, Sébastien de Raignecourt. Et je renvoie évidemment sur vos conférences respectives à la Cité des Sciences sur les mots des animaux. Le lien est sur notre page, grâce à Caroline Fillette, Hugo Violas de l'autre côté de la vitre à la réalisation, Caroline Echowski au micro. Merci pour votre curiosité, chers amis auditeurs. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. On se retrouve demain, si vous le voulez bien, pour nous interroger sur notre sixième sens, encore trop méconnu, la proprioception, à redécouvrir avec tous nos sens justement. Mais pour l'heure, vous avez rendez-vous avec les informations sur RFI.